t'attaches à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cœur. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi matin. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, un patchwork de choses diverses. Et surtout, donc, venu de la presse, mais pas que. Alors, pour commencer, je peux lire un fait d'actualité. Enfin, là, on est sur l'actualité du pouvoir médical avec cette news, urgence pédiatrique saturée, le gouvernement débloque 150 millions d'euros et annonce un plan d'action immédiat. Un article, donc là c'est France TV Info, du 23 octobre 2022. Après le cri d'alerte lancé par plus de 4000 soignants en pédiatrie, le gouvernement annonce un plan d'action immédiat et 150 millions d'euros pour les services en tension. Des plans blancs pour rappeler des personnels supplémentaires et le déblocage de 150 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouvernement par la voix notamment de son porte-parole Olivier Véran. Vendredi, plus de 4000 soignants en pédiatrie avaient adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer les conditions de travail et une prise en charge inadaptée, résultat d'une inaction politique irresponsable. Olivier Véran détaille ce qu'il appelle le plan d'action immédiat du gouvernement. On déclenche là où c'est nécessaire les fameux plans blancs pour rappeler du personnel supplémentaire et pour avoir une meilleure coopération dans les territoires. Le plan blanc contient des mesures d'organisation destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou à une activité accrue d'un hôpital. Le ministre de la Santé, François Braun, a de son côté annoncé le déblocage de 150 millions d'euros pour l'ensemble des services en tension à l'hôpital. Pour le ministre, cet argent doit servir à répondre tout de suite à des problématiques spécifiques de certains secteurs, notamment une augmentation de personnel à condition que l'on trouve du personnel. François Braun assure que, bien entendu, nous allons prendre en charge tous les enfants qui nécessitent d'aller à l'hôpital, mais il faut nous aider en évitant d'aller à l'hôpital quand ce n'est pas nécessaire. Le gouvernement était dans l'obligation de réagir vite, mais il y a un vrai problème de fond, a réagi Isabelle Deguerres, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker à Paris, une des signataires de la lettre à Emmanuel Macron. 150 millions, c'est un effet de chiffre. Le problème, ce n'est pas les sous, mais reconnaître le statut des soignants, leur donner envie de travailler en hôpital, mettre des vrais ratios soignants par enfant, met-elle en avant. Mélodie Aubard, neuropédiatre à l'hôpital Necker Enfants Malades de Paris, également signataire du courrier au chef de l'État, réagit aussi au sujet des plans blancs. On explique qu'on veut des réformes structurelles, urgences, et on nous répond par un plan blanc, utilisé une fois par an depuis 2019. Le plan blanc, ça veut dire déplacer des infirmières, annuler des congés, ça ne fait que tendre la façon dont on pratique le soin. L'épidémie de bronchiolite s'est étendue à toute la France métropolitaine. Depuis 2 semaines, elle se traduit par une nette augmentation des passages aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans, suivie de davantage d'hospitalisations que l'an dernier, a souligné jeudi la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Amélie Verdier, au risque d'une saturation des hôpitaux. En réanimation pédiatrique, déjà 14 jeunes patients ont dû être transférés hors d'Île-de-France, au CHU d'Amiens et de Rouen notamment. Voilà, c'était un article de Jean Faumeris avec AFP. Eh bien, voilà, c'est toujours des effets pour répondre à cette entre guillemets crise de l'hôpital public. Des effets ponctuels, mais pas de volonté politique. On a plutôt songé à, jusqu'à, et pendant ces dernières années, à écrémer le service public. Et donc, d'une main et de l'autre, eh bien, voilà, faire des petits effets de manche comme ça avec des... On lâche un peu de sous, 150 millions, de temps en temps. Voilà, et donc maintenant, on va passer à toute autre chose avec, on va décerner un entonnoir d'or, on va en décerner 2 même, aujourd'hui, à l'entonnoir, un entonnoir d'or, donc... voilà, l'entonnoir d'or récompense tout individu qui fait de problèmes politiques, sociaux, etc., des problèmes médicaux, et en l'occurrence psychiatriques. Alors là, je suis tombé sur la bande dessinée... Le Monde sans fin, Jancovici-Blin. Alors Jancovici, c'est Jean-Marc Jancovici. On peut le présenter un peu. Et Christophe Blin, c'est le dessinateur qui accompagne le propos donc de Jean-Marc Jancovici. Alors il est polytechnicien. Fondateur du Shift Project, think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, prof à l'école des mines, voilà, et il dit à propos de ceux qui critiquent la production d'énergie nucléaire, alors par exemple l'uranium, il parle de l'uranium à un moment, l'uranium est très dense, on se servait de l'uranium-238 qui est inoffensif pour lester la quille des bateaux, on l'a remplacé par du plomb parce que l'uranium faisait peur. Alors premier indice qui va nous amener à un peu plus loin. Là il nous parle de Tchernobyl. Tchernobyl, il dit, pour étonnant que ça puisse paraître, il n'y a pas de conséquences sanitaires qui sortent du cours normal des choses suite à la catastrophe de Tchernobyl. Alors, le dessinateur lui demande, tu veux dire que Tchernobyl n'était pas si grave ? Non, c'est une catastrophe. Le stress dû à l'accident et l'évacuation des populations a eu des conséquences dramatiques. Ça aussi, c'est dans le rapport de l'UNSCEAR. Alors, l'UNSCEAR, c'est l'équivalent du GIEC en matière d'énergie atomique. Dans le domaine du nucléaire. Et donc je poursuis. La panique et la peur de la radioactivité ont fait plus de dégâts que la radioactivité elle-même. Voilà, et un peu plus loin encore, c'est... Mais alors, Tchernobyl et Fukushima n'ont eu que des répercussions locales. Plus important que les conséquences locales est l'impact psychologique planétaire. Par exemple, la réaction des Allemands après Fukushima va être des milliers de fois plus mortelle que tous les accidents nucléaires réunis. Impact immédiat, peur. Alors donc, pourquoi il dit ça ? Eh bien parce que, évidemment, le refus du nucléaire des Allemands eh bien, va faire en sorte qu'ils exploitent davantage la production d'énergie par l'intermédiaire de matières carbonées comme la lignite ou le charbon. Alors, donc voilà. On peut produire des arguments scientifiques en faveur du nucléaire, ça n'est pas le problème. Ça pose le débat. Mais associer la peur, associer une disposition psychologique au refus des militants et des militantes antinucléaires, comme si leur position était irraisonnée, et les attaquer dans leur démarche critique qui s'appuie elle aussi sur des travaux scientifiques, les réduisent à des fanatiques ignorants et dangereux. D'ailleurs, dans ce livre, il fait même la comparaison avec les militants anti-écologistes et ceux qui brûlent des sorcières, qui brûlaient des sorcières. Vraiment, c'était... donc, c'est pour nous une forme de psychiatrisation d'une position politique. Nous décernons donc l'entonnoir d'or, à Jean-Marc Jancovici. Et puis, un deuxième entonnoir d'or aussi. Allez, on y va. On est généreux cette semaine. Eh bien, on va écouter ça d'abord. Donc, il s'agit évidemment, c'est à propos de ce terme éco-anxiété qui a été abordé lors de l'émission sur Arte, l'émission 28 minutes, le 24 octobre 2022. On écoute.
Ce soir, ce mot qui va faire son entrée dans le Petit Robert, évoqué par Amira Sou.
Parce que... Enfin, je sais.
Ce soir, ce mot qui va faire son entrée dans le Petit Robert, évoqué par Amira Sou.
Je reviens un petit peu en arrière. Voilà.
Éco-anxiété ce soir, ce mot qui va faire son entrée dans le Petit Robert, évoqué par Amira Souilem.
Éco-anxiété, angoissée par la situation climatique.
L'éco-anxiété, c'est une anxiété d'anticipation.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Exactement ce que ça dit.
Merci de m'en dire un peu plus.
Entendu. La vie secrète des mots vedettes.
Canicule à répétition, feux de forêt, fonte des glaciers, ça vous déprime un peu. Vous souffrez peut-être d'éco-anxiété. Un mot qui va faire son apparition prochainement dans le Robert. Alors, ouvrons le dictionnaire. L'éco-anxiété désigne une angoisse existentielle intrinsèquement liée au changement climatique et au bouleversement de la biodiversité. Le terme apparaît pour la première fois en 1997 sous la plume du médecin belgo-canadien Véronique Lapège. Spécialiste des questions environnementales et de santé mentale, elle croise ses travaux et acquiert la conviction que les dégradations galopantes du climat vont entraîner notre morale dans leur chute. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette définition, c'est probablement que vous n'êtes plus si jeune. Car l'éco-anxiété touche majoritairement la génération Z. Ces terriens, nés entre 1997 et 2010, terrifiés par le devenir de notre Terre, ils s'identifient à la jeune Greta Thunberg, la Suédoise à l'origine du mouvement planétaire des jeunes pour le climat.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day.
L'éco-anxiété, un choc nécessaire à l'entendre, peut-être même cathartique, un préalable au passage à l'action, espère-t-elle. Pas encore considéré comme un trouble mental au même titre que la dépression, l'éco-anxiété aiguise cependant de plus en plus l'intérêt des psychiatres. Un groupe de praticiens américains a ainsi lancé la Climate Psychiatry Alliance, qui vise à sensibiliser le grand public aux répercussions psychiques des bouleversements climatiques. Parmi les conséquences directes de cette crise existentielle, le refus de certains d'avoir des enfants désormais.
Voilà, alors Véronique Lapège, médecin-chercheur en santé publique, qui a inventé, a conceptualisé la notion d'éco-anxiété dès 1996. Alors, on va ajouter quelques détails issus du nationalgeographic.fr, du site. Une question est posée à cette médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale. Véronique Lapège. Que désigne exactement l'éco-anxiété ? Elle répond : Lorsque j'ai inventé ce concept en 1996, je cumulais trois casquettes de professeur, une en santé mentale, une en santé publique et une en santé environnementale. C'est ce qui m'a poussé à m'interroger sur le ressenti des gens par rapport aux grands bouleversements de la planète, réchauffement climatique, pollution, extinction des espèces, etc. Je me suis aperçu dans le groupe multiculturel d'une cinquantaine de personnes que je suivais à l'époque que beaucoup exprimaient un mal-être identitaire similaire face aux constat effroyable de ce qui se passait autour de nous. Mais ce sentiment n'était pas uniquement négatif, car il provoquait aussi une responsabilisation de ces personnes face au changement planétaire. Or, si l'on veut combattre le réchauffement climatique, se sentir responsable et indispensable, il ne faut donc pas voir l'éco-anxiété uniquement comme un problème, mais aussi comme un moteur pour changer les choses. Ce sentiment conduit les gens à adhérer à certaines valeurs, à un engagement intérieur. Ils vont prendre position dans le débat public, se rassembler, et un leadership collectif peut alors émerger. Voilà, donc... Toutefois, la porte est désormais ouverte pour une médicalisation de, de cette appréhension face au changement climatique. Et avec la Climate Alliance qui a été évoquée dans la petite séquence, eh bien, on risque de voir aussi se développer donc une campagne, même parfois agressive, pour psychiatriser des militants écologistes. Alors, on va décerner l'entonnoir d'or à cette chercheur aussi, mais aussi au dictionnaire Le Robert, puisque ce mot éco-anxiété entre désormais dans le Robert. Voilà, la distribution est faite. De quoi pourrait-on parler maintenant ? Eh bien, après une petite pause, nous allons revenir sur quelque chose dont on avait parlé. La situation de la psychiatrie aujourd'hui. Et à tout à l'heure. Toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire, et nous. Donc je vais vous lire maintenant, non seulement aujourd'hui, mais à l'instant même, un extrait du compte-rendu de la conférence débat du 17 septembre 2022 qui a eu lieu à l'AGK le 10 octobre 2022. Avec à l'initiative du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, et un extrait de ce compte-rendu. Donc, on en avait un peu parlé, mais là, j'avais envie qu'on soit un peu plus... qu'on prenne plus de temps sur... eh bien, l'intervention de la docteure Anna Balège, psychiatre dissidente et transgenre, son intervention résumée ici sous la plume de à la fois André Bitton et aussi un psychiatre qui était présent aussi à la conférence débat et qui a pris des notes. Alors, la docteure Anna Balège a décrit son parcours et les raisons épistémiques, ce ne sont pas des raisons conjoncturelles, mais historiques, structurelles, pour lesquelles elle estime qu'il n'y a rien à faire de l'intérieur du système psychiatrique. Pour des raisons plus cliniques, le docteur Jean-Michel Kahn-Filachet fait de son côté un constat similaire, qui était présent donc à cette conférence débat. Toutefois, son option est d'agir à côté de l'institution sans s'y confronter frontalement, de sorte de faire un travail soignant et de continuer à pouvoir le faire. La docteure Anna Balège a développé un argument en faveur de la thèse abolitionniste en matière de soins psychiatriques sans consentement, thèse qui est celle de l'ENUSP, Réseau européen des usagers et ex-usagers et survivants de la psychiatrie, de... thèse qui est celle aussi de Madame Tina Minkovic, juriste américaine, survivante de la psychiatrie et co-rédactrice de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et du Comité des droits des handicapés des Nations Unies. C'est aussi un petit peu la thèse qui est défendue à l'entonnoir, la thèse abolitionniste. Alors, le camp de la docteure Anna Balège est spécifique, c'est celui des transgenres, par ailleurs. Alors, cette thèse, qui est aussi une revendication, peut se résumer ainsi: abolition de toute contrainte en psychiatrie, qu'il s'agisse de l'enfermement psychiatrique ou des soins psychiatriques sous contrainte, inclusion dans le droit commun, déségrégation systématique de la population concernée. Son point de vue est radical. La docteure Balège se positionne dans le cadre d'une lutte spécifique des transgenres. Elle a subi la psychiatrie enfante et adolescente, tentative de suicide à l'âge de 4 ans. Médecin psychiatre, elle a suivi un cursus en externat au CHU de Clermont-Ferrand dans le service du docteur Lorca, psychiatre lié à la Fondation Fondamentale, créée en 2007 sous le parrainage du ministère de la Santé. Voilà, c'est aussi des co-auteurs avec Marion Le Boyer du livre Urgence psychiatrie, qui est donc une ode à la Fondation Fondamentale et aux neurosciences, entre autres. Mais voilà. La docteure Anna Balège a ensuite travaillé dans le service anciennement dirigé par le docteur Jean-Luc Roland de l'EPSM de Lille Métropole, ex-CHS d'Armentières. Praticienne hospitalière, elle a collaboré 3 ans durant avec le centre collaborateur de l'OMS, CCOMS, présidé par le docteur Jean-Luc Roland. Elle a arrêté son activité clinique pour sa transition transgenre. Selon la docteure Balège, les termes de la lutte politique en santé mentale sont mal posés. Dans les faits, la psychiatrie actuelle fonctionne très bien. cette institution remplit un rôle politique répressif depuis sa création au XIXe siècle, et c'est bien cette fonction qui est centrale. À propos de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et de celle du 5 juillet 2011, être psychiatre relève d'un acte de foi, je suis psychiatre, mais... Bon, là, je n'ai pas les précisions par rapport à cette phrase, je passe directement à la suite. Du point de vue des luttes transgenres, cette communauté a affaire avec la psychiatrie. Le changement de sexe n'est autorisé que sur la base d'expertise psychiatrique. Le combat des transgenres s'insère dans les mouvements de revendication d'ensemble pour les droits civiques. Fondamentalement, la question n'est pas celle des pratiques, mais celle des droits, soutient-elle en substance. L'impératif étant la construction et le développement de réseaux alternatifs hors système. Les alliés dans le système, dès que la pression monte, perdent leur rôle d'allié. D'après son expérience, rester dans le système psychiatrique est un écueil. La science psychiatrique s'est construite après la pratique. On enferme, puis on construit un savoir a posteriori. Fondamental, la fondation, ment. Cette discipline n'existe que pour servir un pouvoir. L'institution psychiatrique, une fabrique de fous dangereux. La nouveauté de la deuxième moitié du XXe siècle a été l'élargissement du champ d'application de la psychiatrie à la vie de tous les jours. De plus en plus de choses sont psychiatrisées. Sur la légitimité, nous ne pouvons que rejeter l'explication biologique des pathologies mentales selon laquelle nos gènes déterminent notre vie. Pour les personnes victimes de ce système, comment se positionner politiquement ? Vouloir de bons soins, c'est déjà être perdu. L'esthétique, au sens de l'habillage, de la présentation, dominante dans notre société, est celle d'un bien-être qui passe par une psychiatrisation. Il s'agit d'une nouvelle esthétique, mais le mécanisme d'emprise sur les personnes poursuit le même but qu'antérieurement. La forme que cela prend. Rester dans cette esthétique, c'est mettre le débat sur la forme. Sur le fond, la problématique centrale est celle de l'exclusion et du contrôle médico-social des minorités. Sur le statut de malade mental, on s'en fiche un peu. On a des droits fondamentaux, on peut être détenu et privé de liberté ou voir sa liberté restreinte en psychiatrie. La limite des droits humains. On ne doit pas pouvoir priver les personnes de leur liberté. Et André Bitton ajoute « sur le seul motif psychiatrique qui en lui-même est ségrégatif ». La lutte juridique est donc nécessaire. La question étant « est-ce que vous avez le pouvoir de faire valoir vos droits ?» La lutte politique porte sur l'enjeu de l'application effective des droits fondamentaux, nos droits d'abord, et non l'accès aux soins en toute priorité, ce qui est le point de vue institutionnel, mais aussi celui majoritaire dans l'institution judiciaire. Il est possible de structurer une communauté revendicative sur cette base, à savoir faire valoir ses droits. Les différentes luttes sont fragmentées. Les transgenres ont leur propre lutte antipsychiatrique spécifique. De même pour les différents handicaps. Il y a une réelle difficulté pour discuter de cela avec des associations de personnes psychiatrisées. Un front unifié serait nécessaire pour ne pas fragmenter la lutte. Et là, une nouvelle notation d'André Bitton qui commente ce propos. Ce front commun est introuvable. Des carrières, des subventions, des rôles sociaux sont en jeu, ainsi que la peur, la résignation et les avantages sociaux et financiers, AAH, etc., qui empêchent et fragmentent les quelques mobilisations de psychiatrisés qui peuvent avoir cours. Celles-ci, en pratique, n'ont lieu que sur des feux verts express des institutions psychiatriques, des professionnels du terrain, des ARS et des pouvoirs publics. Donc constat amer, mais issu de l'expérience. Donc, position soutenue par la docteure Anna Balège, refuser les traitements psychiatriques. Personne n'a de carence en neuroleptique qu'il faille combler. L'argument à faire valoir étant de prendre appui sur le principe affirmé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades sur le libre choix du thérapeute, ce qui induit un libre choix de la thérapie. Voir l'article L. 1110-8 du Code de la santé publique. Actuellement, les patients en psychiatrie n'ont pas cette liberté de choix en matière de soins psychiatriques, du fait des mesures de contrainte qui peuvent être mises en œuvre, mais aussi des chantages aux prestations ouvertes avec les prises en charge en milieu psychiatrique. Ainsi, pour la docteure Anna Balège, la base doctrinale de la lutte pour les droits en santé mentale doit être la suivante. Abolition des législations portant sur l'internement et la contrainte aux soins. Le consentement doit être libre et éclairé. Le droit commun en matière médicale doit s'appliquer. Par exemple, l'Islande. Ce qu'ajoute André Bitton, voici. L'Islande, qui est une île peu peuplée, ce qui signifie que, effectivement, sur un territoire national comme la France, c'est un peu plus difficile. La France fabrique de la contrainte et de l'enfermement psychiatrique et entend continuer ainsi. Le Japon bat la France sur ce terrain. 300 000 personnes y sont internées, par rapport à 95 000 personnes en France, en incluant les personnes en programme de soins ambulatoires ou avec hospitalisation à temps partiel. Alors, 95 000 personnes, c'est par an, par année. Nous devons valoriser le soutien communautaire. Nous ne devons pas accepter dans nos rangs des personnes qui psychiatrisent ou qui médicalisent autrui. Autre revendication, suppression de l'irresponsabilité pénale. La capacité juridique de la personne doit être conservée par principe. Alors, une autre note, cela implique une carcéralisation sans nuance entre les délinquants et criminels atteints au plan psychiatrique et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, cette revendication peut être un peu... dangereuse pour... Bon. La question psychiatrique, enfin, doit devenir une priorité de santé publique et être posée en termes de santé publique. Nota bene, la politique actuelle de désengagement de l'État est aussi une chance pour les mouvements alternatifs en psychiatrie. Voilà, alors donc, y a des choses qu'on partage avec ce point de vue de la docteure Anna Balège. Ce serait intéressant d'ailleurs de la rencontrer et d'en discuter avec elle devant ce micro, par exemple. Alors, je termine par un dernier commentaire de André Bitton, donc président du CRPA, et qui avait organisé cette conférence de débat le 10 octobre, sur la position de la docteure Anna Balège. Cette conception abolitionniste a été défendue des années 1960 aux années 2000 par les courants désaliénistes et antipsychiatriques, pour l'essentiel formés de professionnels de la psychiatrie ou de futurs professionnels de la psychiatrie. Elle a eu comme traduction concrète un consensus de ces courants pour bloquer les réformes sur ce terrain, ce qui a conduit les gouvernements successifs à passer en force des réformes hospitalières. Cette même situation a conduit à la marginalisation de toute problématique relative à une mise à effet des droits des patients en psychiatrie, renforçant ainsi un certain totalitarisme psychiatrique. En matière politique, il est connu que des revendications maximalistes conduisent au maintien du statu quo. Une différence notable entre cette période et notre période actuelle est que cette conception est portée ces dernières années par des patients et ex-patients eux-mêmes sur la base de l'entrée en vigueur en mars 2010 en France de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Voilà, une petite précision, un petit peu amère aussi par ailleurs, mais réaliste. Voilà, eh bien, nous allons faire une nouvelle pause et nous revenons ensuite sur justement des alternatives de lutte. Ces deux musiques qu'on a entendues au cours de l'émission étaient de Buckshot. Alors, on aborde donc les. On va revenir sur un autre sujet dont on avait longuement parlé la semaine dernière. À propos des rencontres autour des souffrances psychiques des 14, 15 et 16 octobre 2022 à Faux-la-Montagne, trois jours autour des souffrances psy, donc 10 ans après les rencontres du même nom qui ont lieu en octobre 2011 sur le plateau des Mille Vaches, et avec le constat qui était fait à l'époque, et toujours d'actualité, qui est le suivant: parce que la psychiatrie ne répond que très peu à nos attentes et que la norme sociale imposée nous semble parfois délirante, nous pensons qu'il serait bon de mettre en partage nos désirs, connaissances et expériences, et pourquoi pas ouvrir le débat sur ce que nous pouvons créer ici et ensemble. Et donc, avec la création de du groupe Psy-Psy, donc sur le plateau des Mille Vaches. Et là, je propose qu'on écoute, de vous faire écouter la voix de Chédia Lerouage sur SoundCloud, comme un peu un complément à ce à cette démarche psy, que l'on a longuement expliqué la semaine dernière. Donc un documentaire débuté dans le cadre de la formation radio avec Mehdi Aoudig, organisé par l'association Pivoine de Faux-la-Montagne. Réalisation Chédia et Flo. Musique, là il y a une petite playlist. Brindille à mon enfant de Sages comme des Sauvages. Abadou de Zap Mama. Et Blue Lily Red Lotus de Sushila Raman. Ce son là qu'on va entendre, une présentation de et s'intitule quand quelqu'un est à terre, tu le relèves. Et voilà. Et donc de la démarche le temps de caler le
parce que enfin je sais pas comment peut-être je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi il y a 4 ans. En fait, il y a 4 ans, il y a eu une succession de décès dans ma famille. En fait, il y a eu ma mère qui s'est suicidée. Suite à ça, mon père, en fait, il a fait une récidive d'un cancer du pancréas. Et du coup, il y a eu un moment où les deux cumulés, tout à coup, ce qui me semblait supportable ne l'était plus du tout. Et du coup, c'était... je sais pas comment dire, c'est passé de chaud à... juste insupportable, et du coup c'était direct méga trash. J'avais plus d'appétit du tout. Enfin, j'étais plus du tout autonome en fait. Et du coup, comme dans ma famille, on venait de vivre un suicide, et là on vivait la fin de vie de mon père, c'était évident que pour moi c'était pas ma famille qui allait pouvoir me soutenir. Et que du coup, j'ai trouvé ça juste merveilleux de pouvoir faire appel au réseau psy, parce que, en fait, pour moi, c'était vraiment un sacré objectif de ne pas aller à l'hôpital psychiatrique. En fait, quand on est déjà anxieux au départ, l'hôpital psy, c'est juste complètement flippant, quoi.
Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance, et brise-elle ici. Amène aussi la souffrance.
Le point de départ de ce groupe-là, c'est quand on a fait des rencontres à Faux-la-Montagne autour de qu'est-ce que la folie, comment ça existe dans nos vies ou pour nous, pour des proches, dans une communauté villageoise.
Au début, quand le réseau psy a dit c'est parti, on se voit. Et genre, c'est moi, Loïc, qui va être ton interlocuteur. Je sais pas s'il se rend compte dans quel état je suis, enfin, c'est vraiment chelou.
On se demande pas si les gens sont en dépression, sont en schizo, sont truc ou sont machin. On s'assure qu'il y a des professionnels soignants dans l'histoire et on fait une espèce de balayage de tout un tas de questions pour comprendre qu'est-ce qu'il convient de faire. La personne, elle a au moins la capacité de discernement sur ça me ferait plutôt du bien, ça me fait plutôt du mal. Être avec mes gamins, ça me rend folle en ce moment. Je vois que dès que j'arrive au boulot, on me demande si ou ça me fait paniquer. Et donc, nous, on va essayer de voir avec cette personne comment elle peut mettre à distance ses stresseurs. Et on demande à la personne quels sont les lieux et les humains auprès desquels elle se sent mieux. Ou moins mal. Et on propose à la personne de contacter ces gens. Et les gens ont toujours dit oui.
Et du coup, dans un premier temps, en fait, ma demande, ça a été de pas être toute seule, mais si possible, jamais, quoi. Et ensuite, finalement, Enfin, qu'on me fasse à manger.
Ici, les gens se connaissent, pas forcément beaucoup, mais ce qui fait que quelqu'un dans le bled va pas bien, il n'y a pas du tout le réflexe de pas s'en préoccuper. Il y a des gens qui vont dire, bah, moi je veux bien faire des courses pour cette personne-là, moi je veux bien boire un thé avec elle une fois par semaine parce que j'aime bien papoter, ça me va. On dit aussi très clairement aux gens, si ça vous va pas, il faut absolument dire non, parce que si vous dites oui, il faut le faire. On n'a pas beaucoup de principes, mais il y en a un qui est vraiment, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et si tu dis à quelqu'un qui ne sait plus pourquoi il est là, que tu vas l'appeler à 14h, eh ben, tu ne l'appelles pas à 16h, quoi. Et tu l'appelles surtout.
Du coup, j'ai l'impression que pour moi, ça a consisté en un accompagnement ultra important pendant 3 semaines, et puis qui s'est ensuite espacé, parce qu'à un moment, par exemple, j'avais plus envie de voir des gens tout le temps. J'en peux plus, en fait, là, ça y est. Je sens que je peux être toute seule, en fait, je n'ai plus envie de mourir.
Ça y est, tu peux me la donner ? On se prépare au fait que chaque personne qu'on accompagne pourrait choisir de mourir. Et nous, on va sans cesse vérifier si elle a envie de mourir ou si elle n'arrive plus à vivre. Moi, ça m'est jamais arrivé hein, que quelqu'un me réponde qu'il a envie de mourir, en fait. Les gens me répondent qu'ils n'arrivent plus à vivre. C'est ça qu'ils me disent, c'est en fait, j'ai pas envie de mourir, c'est que je ne sais plus comment vivre. Bon, bah alors si tu ne sais plus comment vivre, par contre, je vais t'empêcher de mourir. Quand t'en es à te demander si tu vas te donner la mort, c'est que t'es quand même bien au bout. Et donc c'est le moment où si tu choisis de pas le faire, bah, tu donnes le coup de talon et tu remontes.
Et du coup, bah, finalement je suis sortie de la dépression.
Donc après nous on assiste à la remontée vers la lumière, donc c'est plutôt un beau spectacle, tu vois.
À un moment où, enfin, une des choses que j'ai compris aussi, c'est que la dépression, c'était une maladie, que du coup, on pouvait se soigner, enfin, que c'est pas... Je sais pas, un truc qui vous tombe sur la tête et genre, oh merde, bah là ça craint, il n'y a rien à faire. Quoi.
Tu peux aller voir un psychiatre, un psychothérapeute, des sorcières, être soutenu par le groupe psy sur des aspects très matériels où on ne sait jamais ce qui soigne vraiment. Donc tout ça fait soin. Il y a même une personne, ça j'ai envie de le raconter parce que c'est tellement génial, qui nous a dit, on m'a donné votre numéro, ça va pas du tout, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Hein, j'ai passé une demi-heure au téléphone à lui expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Elle me dit merci, ça me suffit. Le simple fait de connaître notre existence était rassurant.
Je me suis finalement rendu compte que quand on en parle, en fait, on se rend compte à quel point c'est fréquent. Et que du coup, c'est un peu dingue que quelque chose qui touche autant de gens soit autant tabou, et parce que le tabou participe énormément en fait de l'enfermement, de l'isolement et du coup de l'augmentation du niveau de malaise, quoi.
Il y a plein d'endroits où tu te vois pas du tout dire, tu sais, ce matin j'ai eu envie de me jeter dans le lac et j'ai imaginé que je m'y prendrais comme ci comme ça, et tu dis pas ça entre la poire et le fromage, quoi. Donc quand tu peux le dire parce que tout simplement on te pose la question, et ben c'est vachement bien. Et une fois que tu l'as dit, c'est déjà sorti de ta tête. Après, on réfléchit à, ok, bon, bah alors, on va plutôt pas faire des balades autour du lac en ce moment. C'est hyper pragmatique, en fait.
En ce moment, ils accompagnent assez fort une personne que j'ai rencontrée sur la proposition de la coordinatrice pour cette personne-là. En disant, ben là, en fait, la personne, elle est plutôt dans un moment où elle est pas sûre qu'elle va sortir de ce merdier-là. Et du coup, est-ce que c'est jouable pour toi de passer du temps? Parce que toi, t'as déjà vécu un gros merdier et puis une sortie de merdier. Moi, étant globalement en ce moment dans un moment très cool, enfin en tout cas facile, c'est assez naturel pour moi de me rendre dispo. C'est comme une façon de rendre un petit peu, en fait, une chose que j'ai reçue.
C'est marrant, on s'est demandé il n'y a pas longtemps pourquoi on faisait ça. Moi, j'ai jamais eu envie de mourir. J'ai plein d'autres endroits de fragilité en moi, mais du coup, cette chose-là qui peut anéantir totalement quelqu'un au point de lui ôter le goût de la vie, je suis tellement heureuse de ne pas vivre ça que je me sens redevable d'une certaine manière. Si un jour je traverse un moment comme ça, je serai tellement heureuse qu'il y ait ce qu'on organise là, en fait. Pour le coup, ce qu'on dit aux gens, c'est « mais si t'étais à ma place, tu le ferais ».
Quand quelqu'un est à terre, tu le relèves. Et pour plus d'informations, le site syndicat-montagne.org/soutien-psy. P-S-Y. Pour finir l'émission, un dernier article. Alors, cet été, dans Libération, dans la semaine du 22 août au vendredi 27, eh bien, il y avait une série consacrée à la psychiatrie avec des psychiatrisés célèbres, ou plus ou moins célèbres, qui étaient présentés chaque jour de cette semaine. Alors là, on a aujourd'hui on a Claude-Louis Séraphin Barizin, membre de la Comédie française au XIXe siècle et profondément dépressif. Monrose, dingue de théâtre. Le docteur Esprit Blanche veillait en coulisses, prêt à se précipiter si son patient défaillait. Ce 7 janvier 1843, Monrose devait interpréter Figaro dans Le Barbier de Séville, un rôle qu'il connaissait par cœur. L'acteur était le spécialiste du valet fourbe et fripon des pièces de Marivaux, Molière et Beaumarchais, mais il n'avait pas joué depuis longtemps. Le docteur Blanche, partisan de sortir les aliénés de leur isolement, avait autorisé sa représentation de retraite de la Comédie française. À cette annonce, les spectateurs s'étaient précipités. Était-ce l'ombre de Monrose ou le grand Monrose de retour sur les planches? Était-ce un adieu au théâtre ou était-il vraiment guéri? Aurait-il encore cette verve caustique qui faisait de lui un acteur célèbre? Avant le lever de rideau, la salle frissonnait. Un soir, à Rouen, quelques années auparavant, le comédien s'était mis à bafouiller, à mélanger prose et vers. On s'était impatienté, on avait fini par le huer, le croyant ivre. Monrose avait perdu la raison. Il avait été conduit dans la célèbre clinique sur les hauteurs de Montmartre. La salle trépigne. Alors, la célèbre clinique sur les hauteurs de Montmartre... La maison du docteur Blanche, histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant, Laure Murat, aux éditions Lattès, 2001. La salle trépigne. Plus on dit « il est malade », plus le parterre répond « qu'il paraisse ». Alors, il reparaît. À l'instant où il reparaît, où il va venir, on tremble. Le frisson se répand dans la salle. « Pauvre homme », dit-on à la fin. « Oh miracle, le voici, c'est lui, c'est bien lui, c'est le Montrose d'autrefois ». Écrit Jules Janin dans son Histoire de la littérature dramatique. De son vrai nom, Claude-Louis Séraphin Barizin, Monrose était né à Besançon en 1783 dans une famille de comédiens. Entré aux Français en 1814, il mène une brillante carrière pendant 28 ans. Physiquement petit, malingre et le visage expressif, Monrose était leste, audacieux, plein d'esprit au théâtre. Mais autant il montrait de gaieté sur scène, autant il était dépressif à la ville. Des vapeurs hypochondriaques, compliquées d'obstructions mésentériques, a-t-on écrit à l'époque. Pendant 20 ans, il est suivi par un médecin, mais la mort de sa femme le plonge dans une profonde dépression au point d'être hospitalisé chez le docteur Blanche. En 1840, on le décrit en proie à des hallucinations. « Je ne m'appelle pas Monrose, dit-il au psychiatre. C'est un nom que j'ai pris, que j'ai usurpé. En le signant, j'ai commis un crime. » Ses adieux s'achevèrent sans incident. Il aurait flanché un peu sur ces mots de Figaro à la fin du troisième acte. « il est fou » oubliait-il alors son rôle. Dans la Gazette de France du 14 janvier 1843, la critique est élogieuse. « Jamais Monrose n'avait joué avec plus de verve, de chaleur et d'esprit le rôle du barbier. Jamais son regard n'avait été plus pétillant, sa parole plus caustique. » Après les applaudissements et les rappels, le docteur Blanche le ramena immédiatement à Montmartre. Monrose ne ressortit jamais, mourut 3 mois plus tard, le 20 avril 1843, à 59 ans. Cette représentation suprême par un homme dont la raison était absente, ajoute Jules Janin, devait être comptée comme le chef-d'œuvre de la volonté du docteur Blanche. Nous appelons cela un miracle, son miracle. Voilà, donc une archive donc de psychiatrie parmi de tellement nombreuses autres. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Eh bien, à la semaine prochaine. Salut. Et nous retrouvons Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée.